Nous sommes de retour à Parole à propos et pour ce deuxième segment de l'émission, nous allons parler de la violence. Nous vivons dans un monde violent. La violence a toujours accompagné l'histoire humaine, du premier enfant de l'homme, Caïn, le fratricide, jusqu'à nos jours, où la violence est courante partout dans le monde. Est-ce que le monde est plus violent ou plus civilisé aujourd'hui qu'il ne le fut dans le passé? C'est une bonne question. Une autre question, est-ce qu'il y a un coefficient de religiosité dans la violence? Autrement dit, est-ce que la religion est responsable d'une quelconque façon de la violence dans le monde? Certains pensent que la religion est responsable de tous les maux de la planète. Parmi eux, il y a des tendances qu'on pourrait dire misothéistes, ceux qui sont des athées purs et durs, qui détestent tout ce qui est religieux, tout ce qui est religion. Et l'autre tendance, plus fumeux de pote idéaliste, qui croit que tout ira bien si tout le monde se tient par la main en chantant « Imagine » de John Lennon. Mais entre ces deux tendances, il y a ceux qui sont plus réalistes, qui savent un peu plus de quoi ils parlent lorsqu'il est question du rapport entre la religion et la violence. Et c'est le cas de mon prochain invité avec lequel nous allons aborder cette question à partir des faits historiques. Alors Clément l'historien, bonjour.
Salut.
Bienvenue à Parole à propos. Content de t'avoir à nouveau. Alors, j'ai introduit le sujet de manière assez générale, mais pour pouvoir dire quelque chose de concret, on va s'intéresser à ce sujet avec une question précise. Est-ce que le comportement de l'homme à la guerre dans l'Antiquité et au Moyen Âge, d'abord, quel était ce comportement et est-ce que le christianisme modifiait ce comportement et de quelle façon? Alors, certains croient que le christianisme a pu encourager la violence en prenant les exemples des croisades, de l'inquisition, etc. Et d'autres croient que le christianisme a civilisé l'homme. Alors d'abord, Clément, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu à quoi pouvait ressembler la société de l'Antiquité du Moyen-Âge dans un contexte de guerre?
Bon, il faut savoir que dans les deux cas, aussi bien à l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, la guerre était récurrente, d'ailleurs comme elle va l'être partout jusqu'au 20e siècle. Les deux, c'est pas exactement pareil dans les deux. À l'Antiquité, si on prend l'exemple des Grecs, qui étaient constamment en guerre entre eux, les cités grecques, pratiquaient un type de guerre totale. C'est-à-dire, c'était pas seulement des guerres entre les combattants, mais quand une guerre était en guerre contre une autre cité, on faisait la guerre contre la population. Et c'est pour ça que les Grecs, qui se considéraient vraiment comme supérieurs à tous les autres peuples, qu'ils considéraient comme des barbares, et qu'on considère nous-mêmes comme étant le berceau de notre civilisation, s'esclavageaient entre eux. Parce qu'un vaincu à la guerre valait pas mieux qu'un esclave. Et puis cette mentalité-là, qu'on peut historiquement parlant qualifier c'est adéquat de la qualifier de païenne, va perdurer avec la chute de l'Empire romain jusqu'au milieu du Moyen Âge à peu près. Là, il faut faire une autre mise en contexte historique. Si on arrive disons, au 9e siècle, c'est-à-dire les années 800, il y avait en Europe, l'essentiel de l'Europe était dominé par ce qu'on appelle l'Empire carolingien, fondé par l'empereur Charlemagne. Mais cet empire-là n'était pas très bien consolidé. Et sous ses fils, il va complètement s'éclater en des milliers de petites principautés. À vrai dire, c'est carrément des seigneurs, des ducs, des barons, des comtes qui vont prendre le pouvoir pour eux, chacun dans leur petit patelin. Et ça va créer vraiment une situation proche de l'anarchie où chacun se faisait justice soi-même. Et ça crée vraiment, c'est la guerre constante, mais c'était surtout même on peut appeler ça des guerres privées, c'est des guerres de petite échelle. Et puis, c'était vécu comme un cauchemar par l'Église et aussi par un cauchemar par la population paysanne, c'est elle qui en payait les frais.
Est-ce qu'on peut dire que ça ressemblait à un contexte de guerre civile perpétuelle?
Pas tout à fait. Ça ressemble à des guerres civiles parce que c'était entre territoires rapprochés, mais on ne peut même pas parler de guerre civile parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, l'Europe n'était pas organisée en États-nations. C'était le début de la féodalité c'était seulement des seigneuries, en fin de compte. Un seigneur se battait contre un autre seigneur et puis s'il ne voulait pas attaquer son château, ben il attaquait ses paysans pour plus qu'il y ait de vivre. Et puis finalement, ben c'est les paysans qui en payaient les frais. Et par contre, Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que ça va changer d'avec la situation qu'il y avait dans l'Antiquité puis au début du Moyen Âge. Bien, c'est qu'à l'époque, l'essentiel de la population européenne était devenu christianisé ou du moins catholifié. Et puis c'est là que l'Église romaine va entrer en scène.
Ben, alors, c'est la prochaine question que je vais te poser. Quel rôle le christianisme a joué dans cette situation? Alors, il y avait des conflits partout, les seigneurs s'entre-attaquaient. Est-ce que la présence de l'Église chrétienne a empiré, ça a été le statu quo, ou est-ce que ça a amélioré le monde?
Ce qui est très, très intéressant quand on observe la documentation historique, c'est que l'Église a vraiment été attentive aux souffrances de la population et elle a osé confronter les pouvoirs temporels et, en fin de compte, un peu contraindre par son autorité morale, les seigneurs ou ceux qui avaient la profession de porter les armes, en fin de compte, de mettre leurs armes au service du bien. Et elle va, pour ce faire, mettre en branle toute une série de mesures qui sont vraiment fondamentales, parce que c'est toutes ces mesures-là de pacification féodale qui vont créer les structures de paix sociale dont notre monde est héritier.
Alors concrètement, qu'est-ce que l'Église a fait?
Bon, d'abord, les monastères et les évêchés ont parti un mouvement qu'on appelle la paix de Dieu. Donc, les paix de Dieu étaient, pour faire ça simple, on convoquait des assemblées dans une petite région quelconque où les paysans environnants et tous les seigneurs, tous les guerriers devaient s'assembler. Et là, les clercs, c'est-à-dire les hommes d'église, faisaient toute une mise en scène et puis ils rappelaient, selon le Nouveau Testament, selon Romains 13, ceux qui portent les armes le font pour protéger les innocents et châtier les criminels, pas pour attaquer n'importe qui pour n'importe quelle raison.
Est-ce que n'importe qui était attaqué pour n'importe quelle raison?
À cette époque, oui, là, comme je disais plus tôt, quand un seigneur était en guerre contre un autre seigneur, ben il pouvait razzier, il pouvait attaquer l'église locale, il pouvait tuer des paysans, il pouvait leur voler leur récolte. Donc c'était vraiment terrible. Et puis dans ces assemblées-là, le point culminant était quand on imposait un serment aux combattants, où les combattants s'engageaient en cas de guerre de ne pas attaquer les non-combattants, c'est-à-dire les paysans, particulièrement les femmes, les enfants, les vieillards et aussi les marchands. Donc, la première paix de Dieu a été décrétée en l'an 989 et la dernière paix de Dieu en l'an 1119. Et puis, donc, ça s'est vraiment répandu en France surtout. Ça a été un assez bon succès.
Alors,
Donc, ça,
la
c'était
paix
la.
de Dieu, c'était un engagement de la part des chevaliers et
Autres combattants.
autres combattants, voilà, qui portaient les armes de s'engager à s'abstenir de certaines violences.
Exactement. Bon, on s'entend que ça l'a. C'est pas une mesure miraculeuse. Mais parce que bon, ceux qui transgressaient leur serment étaient excommuniés. Cependant, ils pouvaient être réintégrés dans une autre assemblée de Dieu après. Cependant, disons que ça faisait une tache sur leur CV pour employer un langage moderne. Donc, ça a eu quand même un impact positif. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure qui est similaire s'appelle la trêve de Dieu. La trêve de Dieu consistait en une interdiction de combattre. Au départ, c'était seulement le dimanche et les jours de fête chrétienne. Avec le temps, ça s'est étendu de plus en plus de périodes longues autour des fêtes, à Pâques, à Noël, etc. Et aussi au courant de la semaine, ça couvrait quasiment à un moment donné du vendredi au lundi. Et puis, ça aussi, ça permet, en cas de guerre, aux innocents d'avoir un répit qui était pas, c'était pas n'importe quoi. Et puis, d'aller chercher des ravitaillements, etc. C'est sûr, là aussi, ce n'était pas toujours respecté. On a des textes qui nous sont parvenus de seigneurs qui s'en foutaient complètement. Mais, puisque, comme j'ai dit, cette trêve de Dieu-là, la durée de la trêve, on observe qu'elle a été augmentée au fil du temps. Ça prouve, en fin de compte, que ça avait une certaine efficacité. Parce que si ça n'avait eu aucune efficacité, on n'aurait jamais pensé à allonger la trêve de Dieu.
Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de l'adoubement?
Oui, dans une autre mesure, pour essayer de faire de la chevalerie une milice chrétienne, on a créé le rituel de l'adoubement, qui consistait, en gros, à faire de la chevalerie une espèce d'ordre, où on entrait seulement après une cérémonie et une éducation qui faisait en sorte que les chevaliers mettaient seulement leur épée au service du bien.
Alors, c'est devenu un ordre monastique. Est-ce que les Templiers, c'est de là que ça vient?
Entre autres.
OK. Et concrètement, est-ce qu'il y a des résultats durables qui ont pu être observés dans la société occidentale de ces efforts de l'Église pour pacifier la civilisation?
Oui. Bon, il faut comprendre que en même temps que l'Église faisait ça, si l'Église le fait, c'est d'ailleurs parce que c'était la seule institution à l'époque qui avait l'influence et le pouvoir pour le faire. L'Église est vraiment intervenue dans un moment très, très difficile. Et si elle n'était pas intervenue, ça aurait été le chaos, hein, en Occident. Mais puisque l'Église est intervenue, ça l'a aidé à mettre en place des structures de paix sociale. Ça l'a aidé aussi le royaume de France et d'autres royaumes européens à se restructurer un peu, avoir un roi qui ait une certaine autorité, qui soit un roi justicier et qui punit les seigneurs malfaisants. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que vers la fin de la paix de Dieu, on appelait carrément cette paix-là la paix du roi. Et ça a été récupéré par la dynastie capétienne en France. Et dans le fond, cet effort-là a contribué à la reconstruction de l'Occident. Et ça, c'est parvenu, c'est un héritage lointain, mais c'est parvenu jusqu'à nous, et nous, on est en partie tributaires de ça.
Ben, c'est très intéressant. Merci, Clément, pour cette clarification et ces informations qui nous permettent de faire des parallèles avec notre héritage aujourd'hui de nos sociétés civiles, certains droits, certaines pratiques dans la justice et comment c'est fondé sur des principes chrétiens. Et je termine en lisant, alors que tu parlais, c'est ce qui m'est venu en tête, la béatitude d'ouverture du Christ dans le sermon sur la montagne où il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » En fait, l'Évangile, c'est exactement ça. C'est Dieu qui tente de faire la paix avec l'homme, de réconcilier l'homme à lui-même et qui fait ensuite de l'homme un pacificateur, un ministre de la paix. Et l'Évangile, ben, c'est cela. C'est là où commence la véritable paix. Ce n'est pas dans des alliances humaines, premièrement, mais ça commence avec la réconciliation avec Dieu. Parce que l'homme est véritablement dans une guerre spirituelle avec Dieu par sa condition pécheresse. Et l'Évangile le réconcilie par le sang de Christ. Il est réconcilié. Une fois qu'il est réconcilié avec Dieu, bien, il peut être réconcilié avec les autres. Et c'est ce que devrait être l'Église, idéalement. C'est une communauté de personnes réconciliées entre elles et où habite la paix, où habite l'unité. C'est une recréation, une nouvelle société et ça devrait avoir un impact visible dans le monde et concret. Et on peut se réjouir donc que ce petit épisode qui nous a été présenté, Sur le Moyen Âge, on a vu concrètement des effets de l'Évangile dans la société, des effets qui perdurent encore aujourd'hui. Mais merci encore, Clément.
Ça me fait plaisir.
On vous retrouve prochainement pour une autre émission de Parole à propos.